90,2. Savez-vous que le projet d'exploitation commune du gaz méthane dans le lac Kivu par le Rwanda et la RDC va être concrétisé dans les jours à venir? Il faut savoir que le Rwanda et le Congo ont invité des experts internationaux ainsi que ceux de ces deux pays pour un échange d'expériences. Dernièrement, un atelier de 3 jours s'est clôturé, c'était mercredi à Gisenyi au Rwanda, en présence du ministre congolais des hydrocarbures ainsi que de son homologue rwandais. La plupart des experts y ont pris part à cet atelier d'échange en l'aboutissement positif de ce projet d'exploitation du gaz méthane qui sera désormais financé par la communauté internationale. Alors d'autres détails avec Gisèle Cage à travers ce reportage.
Selon M. Lambert Mende, ministre congolais des hydrocarbures, c'est dans la quinzaine du mois d'avril prochain que sera lancée la première exploitation industrielle du gaz méthane dans le lac Kivu. Ce projet sera effectif grâce à l'aide de la communauté internationale, dont les Nations Unies, l'Union Européenne et les États-Unis. Durant 3 jours à Gisenyi, les experts internationaux, rwandais, ainsi que les Congolais ont échangé leurs expériences en vue de ces projets. L'objectif du projet est de produire de l'énergie électrique d'une capacité de 500 MW. La plupart des experts y ont participé à cet atelier d'échange d'expériences se disent confiants. L'un de Digne Rugwa Burungu, chercheur sur les gaz méthane du lac Kivu, il travaille notamment à l'Université libre de Bruxelles.
C'est une très grande nouvelle. Nous attendons ça depuis plusieurs années. Il y a quelques années, on était loin d'imaginer que cela soit possible. Mais aujourd'hui, je puis dire que nous sommes bien partis. Toutes les conditions sont réunies. Les conditions de confiance sont rétablies. C'est très important. Et la suite, l'expertise et la technologie est disponible. Les financements aussi. Qu'est-ce qui pourrait empêcher que ça marche?
Selon un chercheur congolais de l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG, l'exploitation du gaz méthane a des avantages ainsi que des inconvénients. Kasri Kamainda, chercheur volcanologue.
Les différentes informations que nous avons et les différentes études montrent que le gaz méthane est en train d'augmenter. Dans les 30 ans passés, ça a augmenté de 15%. Alors, le gaz méthane est explosif à 5% de concentration. Donc, si on n'exploite pas le gaz méthane, il y a risque d'explosion un jour. Donc, il faut limiter ces dégâts. Mais on a aussi d'autres phénomènes qui peuvent perturber ce lac. Il y a le dioxyde de carbone qui est là, qui est 5 fois plus grand que le gaz méthane.
Donc, ça, c'est la conséquence maintenant.
La conséquence, oui. Il faut aussi savoir exploiter ce dioxyde de carbone. Donc, il faut savoir l'éliminer, le diminuer, ainsi de suite. Nous nous sommes dit, ce lac, il ne faut pas l'exploiter, ça aussi, voir les risques. Puisque dans le passé, il y a eu des éruptions volcaniques dans le lac Kivu. Il y a aussi des tremblements de terre qui ont lieu dans ce lac et en dehors de ce lac. Nous avons insisté aussi sur la surveillance de ce lac au niveau sismique. Mais en exploitant maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va voir déjà les conséquences tout de suite là. C'est ça, nous parlons à long terme, puisqu'il faut prévenir. Le lac, on va l'exploiter pendant au moins 100 ans. Alors il faut que les générations qui viennent trouvent une structure déjà sur place, dans les protocoles d'accord. Donc si le contrôle est assuré, les institutions qui fonctionnent déjà pour la surveillance du lac Kivu, on doit les renforcer avec de nouvelles technologies pour que tous nous puissions démarrer ensemble.
Les deux pays sont censés produire du gaz méthane chacun de son côté, mais avec les mesures de sécurité communes. Ainsi donc, un protocole d'accord a été signé entre les différents experts, notamment sur la législation pour la sécurité du lac Kivu. Écoutons à ce sujet le ministre Lambert Mende.
Le contenu, globalement, d'abord un engagement à élaborer ensemble les législations qui concernent la sécurité et le maintien de la stabilité écologique du lac pour ne pas briser la biodiversité. Deuxième mesure, c'est la mise en place d'une équipe mixte d'experts congolais et rwandais pour suivre ensemble avec ceux de la communauté internationale tous les efforts qui sont en train d'être faits pour lancer l'exploitation du lac sans gêner pour autant les populations qui vivent aux alentours en termes de sécurité publique.
Est-ce que les experts qui ont été en atelier pendant 3 jours vont travailler ensemble pour l'aboutissement de ce projet?
Oui, c'est le contenu même de notre protocole d'accord, c'est de faire en sorte que les experts congolais et rwandais avec leurs collègues de la communauté internationale travaillent ensemble. Vous savez que le gaz circule, s'il y a un accident, tous les deux pays sont concernés. Donc la réponse la plus intelligente, c'est de mettre les gens au travail ensemble pour gérer ensemble tous ces défis technologiques et environnementaux.
À la fin de cet atelier, le ministre congolais des hydrocarbures ainsi que son homologue rwandais ont visité les installations de la station Rubona à Gisenyi, une usine de production du gaz méthane et dont la presse presque totalité de la production est utilisée pour faire fonctionner l'usine de production de bière de la Bralirois.
Okapi Action, Nicole Ngaka et J.R. Lungembo.
Il est bon de savoir qu'il existe seulement 3 lacs au monde qui contiennent une forte proportion de gaz dissous, les lacs Nyos et Monoun au Cameroun et le lac Kivu à la frontière de la République démocratique du Congo avec le Rwanda. Il est bon de savoir aussi que selon les experts dans ce domaine, le lac Kivu contiendrait une quantité de gaz 1000 fois plus importante que les lacs Nyos. Aujourd'hui, nous apprenons que ce lac sera bientôt exploité. Concrètement, comment les choses vont-elles se passer ? Nous avons en ligne le ministre des Hydrocarbures, Lambert Mende. Lambert Mende, nous savons qu'un protocole d'accord vient d'être signé entre Kinshasa et Kigali à propos de l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu. Mais qu'est-ce qu'il prévoit exactement ?
Eh bien, le protocole d'accord prévoit des mesures concrètes de surveillance du lac Kivu, parce qu'il faut fixer les étapes que les parties rwandaises et congolaises doivent entreprendre. Établir un cadre institutionnel de surveillance pour stabiliser le lac, parce qu'il ne faut pas que l'exploitation puisse amener à avoir un impact sur le niveau de l'eau dans le lac et dans ses affluents, parce qu'automatiquement nous aurions des problèmes notamment avec la Ruzizi, où la RDC dispose de barrages hydroélectriques qui alimentent Bukavu et Goma. Donc il faut une surveillance absolument en termes d'environnement. Nous voulons également établir ensemble les lois, les normes, les recommandations en matière de sécurité, en matière d'environnement, pour préserver la santé, l'écosystème et la biodiversité, parce que c'est ça le rôle des États.
Mais que va faire exactement cette équipe rwando-congolaise?
La première phase du travail que nous allons demander aux experts qui vont être désignés par nos deux gouvernements, c'est de mettre à niveau toutes les recherches qui ont été accumulées jusqu'aujourd'hui. C'est depuis 1957. Il y a plusieurs recherches qui ont été entreprises par différents savants, différents instituts de recherche et des universités dans le monde entier. Nous voulons nous approprier ces recherches en les mettant à niveau et permettre ainsi à nos gouvernements de négocier en connaissance de cause l'attribution des blocs d'exploitation aux opérateurs économiques qui sont déjà alignés pour l'exploitation du gaz méthane.
Aujourd'hui, on évalue à peu près à combien les réserves du lac Kivu ? Vous avez une idée ?
Elles sont extrêmement importantes. On parle notamment de 50 milliards de mètres cubes, mais ce ne sont pas des évaluations qui peuvent être fixées de manière définitive, puisque le gaz se régénère chaque année. Il y a une production de nouveaux mètres cubes, mais l'évaluation jusqu'à présent, c'est celle-là.
Alors aujourd'hui, puisqu'on va exploiter ce lac, qu'est-ce que cela pourrait avoir comme avantage pour la RDC ?
Le premier avantage, c'est de mettre à la disposition des populations du Nord Kivu, du Sud Kivu et des environs de nouvelles ressources en énergie électrique, bien sûr avec les structures habilitées comme la SNEL ou le ministère de l'énergie, mais ça, c'est à un autre niveau. Il y a possibilité, les ingénieurs nous l'ont attesté, de fournir jusqu'à 500 mégawatts d'électricité pour cette région, alors que la ville de Goma n'a besoin que de 20 pour couvrir tous ses besoins. Vous voyez déjà l'importance d'un tel projet. Il y a aussi un avantage écologique en ceci que, en évacuant les gaz des profondeurs du lac, nous éloignons l'occurrence du point critique, c'est-à-dire le point au-delà duquel le lac peut exploser, comme cela a été le cas au Cameroun avec le lac Nyos et le lac Monoun, où un excès de concentration de gaz a entraîné l'explosion du lac, avec dissipation d'un nuage mortel sur les rives qui a tué 1600 habitants, c'est des petits villages. Vous voyez l'impact que cela aurait sur de grosses agglomérations comme Goma, Gisenyi ou Bukavu.
Oui, mais pourquoi avoir attendu tout ce temps ? Parce que nous savons qu'il y a déjà une convention qui avait été signée entre le Rwanda et la RDC, une convention commune. Pourquoi on a attendu plus de 50 ans pratiquement pour exploiter le lac ?
Oh, mais c'est un secret de polichinelle. Vous savez très bien ce qui s'est passé dans cette région depuis les années d'indépendance. Il y a eu beaucoup d'instabilité aussi bien au Rwanda qu'en République démocratique du Congo. Je pense qu'il y a à peine deux ans ou trois ans, que la République démocratique du Congo essaye laborieusement de rétablir la stabilité dans cette région. Et donc, vous savez, lorsqu'il y a perturbation, il est difficile de penser à des investissements de ce type-là. Vous savez que les capitaux fuient comme la peste les zones d'insécurité.
Mm-hmm. Alors, est-ce que vous pensez déjà à investir? Vous avez déjà des projets concrets à cet effet?
Oui, nous avons reçu plusieurs offres d'opérateurs économiques. Vous savez que l'État n'a pas pour mission de faire des investissements, de produire, de commercialiser, mais nous faisons un travail d'encadrement, un travail de surveillance et de régulation. Eh bien, nous sommes en train d'enregistrer sur base des concessions qui ont été délimitées de part et d'autre par Sosigaz, que nous voulons ressusciter. Mm. Nous essayons de compiler maintenant les demandes des différents opérateurs économiques. Nous procéderons selon notre législation par appel d'offres internationales et, le mieux disant, se fera offrir par la République l'exploitation de tel ou tel autre bloc. Mais la même chose au Rwanda, selon leurs lois.
C'est ça, mais il y a des bruits, il y a des rumeurs qui courent que ce lac a toujours été exploité par le Rwanda, qui aurait même réussi à implanter certaines industries. Est-ce que vous avez vérifié cela?
Nous avons visité, par priorité, toutes les activités expérimentales appartiennent aux deux pays. Hein. C'est la colonisation qui a établi ça à l'époque du Congo belge, Rwanda, Burundi. Donc, nous avons fait reconnaître par la partie rwandaise notre droit, non seulement à bénéficier des résultats de ces expériences, mais également à les visiter, à les palper du doigt. Et je dois dire que la rumeur n'a pas raison. Il y a bien sûr à Kapurubona une exploitation qui est expérimentale et qui n'a jamais dépassé le stade de l'expérience. Ils ont sorti quelques millions de mètres cubes depuis 40 ans. C'est tout à fait marginal et ça a servi à livrer du courant électrique, à produire du courant électrique pour la Bralirois. Mais à un niveau tel que cette brasserie semble depuis quelques années avoir renoncé à cela puisque ce n'est pas suffisant pour couvrir l'ensemble de ses besoins. Donc il n'y a eu que de l'expérience, il n'y a pas encore d'exploitation industrielle.
Il n'y a eu que de l'expérience, mais tout de même, on peut dire que la convention n'a pas été respectée. La convention commune entre le Rwanda et la RDC n'a pas été respectée.
Bien sûr, nous avons une mesure de guerre, madame, entre-temps. Vous savez, respecter les conventions, c'est quelque chose, mais lorsque deux pays ont été en guerre, je pense qu'il faut d'abord normaliser, et nous sommes en train de le faire, et nous remettons à jour ces conventions. Nous allons ressusciter Sosigaz dans le cadre de la CPGL. Nos chefs de la diplomatie et nos chefs d'État vont probablement dans les mois qui viennent donner le go pour la CPGL. Mm. Nous nous préparons cet aspect qui concerne les hydrocarbures, mais ça fait partie d'un grand ensemble dans la grande commission mixte qui va se tenir dans les mois ou les années qui viennent.
On ne peut pas croire que dans les jours à venir, ces nouveaux accords que vous venez de signer entre le Rwanda et la RDC ne vont pas aboutir à un autre conflit?
Mais non, l'accord ne porte pas encore sur de l'exploitation comme telle. Nous sommes mis d'accord pour constituer une équipe, pour évaluer l'état de ce dossier et proposer aux deux gouvernements les mesures à prendre pour que les deux chefs d'État, lorsqu'ils signent, que l'exploitation industrielle commence immédiatement.
Oui, mais il est tout de même bon de préciser à nos auditeurs qu'est-ce que les deux pays auront comme pourcentage dans l'exploitation du gaz méthane dans les jours à venir?
Il n'y a pas d'exploitation commune, il y a simplement une surveillance commune. Il y a une régulation, c'est-à-dire que les règles de sécurité devront être les mêmes, nous allons les évaluer, nous allons proposer des sanctions à ceux qui violent ensemble, c'est nous, les deux gouvernements, mais l'exploitation se fait, chacun dans ses eaux territoriales, avec les opérateurs qui l'aura identifié et qui auront souscrit aux conditions prévues par sa législation.
Vous dites que l'exploitation va se faire des deux côtés, mais concrètement, parce que on a du mal à comprendre un peu les choses. C'est toujours bien d'être encore plus précis.
Il y a une frontière, vous savez, hein, il n'y a pas, les deux pays ne s'entremêlent pas. Il y a sur le lac une ligne tracée sur laquelle il n'y a aucun problème, comme sur d'autres lignes frontalières. Je crois que là, les choses sont assez claires. Et donc, chacun, sur la base de sa législation, distribue les blocs tels qu'ils se répartissent de part et d'autre de la ligne frontalière, qui est située sur le lac, bien sûr.
Gérald Lungembo.
Lambert Mende, je rappelle que vous êtes ministre congolais des hydrocarbures. Pourquoi parlez-vous de remise à niveau des recherches, d'autant plus que le Rwanda, comme l'a dit ma consoeur, exploite déjà les gaz méthane depuis belle lurette. Et vous, aujourd'hui, 20 ans plus tard, vous parlez encore de remise à niveau. Pourquoi ne pas vous inspirer de ce qu'avait fait le Rwanda pour partir une fois pour toutes?
Mais la remise à niveau consiste justement à l'appropriation par la partie congolaise, si tant est que la partie rwandaise est en avance, l'appropriation par la partie congolaise de la partie des expériences accumulées par la partie rwandaise sur un domaine qui nous est commun de par ce qui a été convenu depuis l'époque coloniale. Donc c'est justement ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous devons échanger des expériences, recevoir les résultats des expériences qui ont été menées surtout par des institutions étrangères, mais dans la partie rwandaise du lac, l'accord a consisté à faire reconnaître à nos amis rwandais la propriété commune de ces résultats. Et donc nous allons accéder à ces résultats, c'est exactement ce qui va se faire dans cette équipe d'experts.
Oui, selon nos sources de l'exploitation de gaz méthane, on pourrait éventuellement obtenir une ressource importante en énergie, soit 500 mégawatts, mais le Goma ou Bukavu n'ont besoin que de 20 mégawatts et le reste, comment allez-vous les utiliser?
Il n'y a pas que l'énergie électrique qui est un dérivé du gaz méthane. Le gaz méthane produit également du méthanol, qui est un carburant propre. Vous savez, ceux qui vont en Europe souvent voient les bus ou les voitures qui circulent au LHD, c'est-à-dire au gaz. Ça vient du gaz méthane, donc c'est une ressource absolument importante, même pour les combustibles pour véhicules, et même pour l'énergie domestique. Il y a des réchauds à gaz, il y a les chauffages à gaz dans les maisons. Ceux qui connaissent un peu l'utilisation de ces produits savent qu'il y a mille et une possibilités d'en extraire des dérivés, l'ammoniac, les fertilisants. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, et c'est ce à quoi nos équipes d'experts vont servir pour indiquer au gouvernement les types d'industries qui peuvent servir de débouché à cette production.
Oui, qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui que, disons, les partenariats pour l'exploitation commune pourraient bien marcher, d'autant plus que en 75, il y a eu, comme l'a dit ma consoeur, une convention Bukavu en 75, et puis en 2005, en 2005, voilà, si je m'abuse, il y avait encore une autre convention, mais jusque-là, rien ne marche, et qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui que ça sera la dernière fois?
Mais je pense que nous savons que rien n'a marché pour des raisons de sécurité, mais pas la convention qui portait en elle des tares de sa propre neutralisation. On peut avoir la meilleure convention du monde, si vous n'avez pas un environnement de paix et de sécurité, aucune activité ne peut démarrer. Je pense que c'est une région qui a connu beaucoup de problèmes, il y a eu plusieurs guerres, il y a eu même un génocide au Rwanda, il y a eu deux guerres chez nous, et donc ce n'est pas le cadre le plus propice pour la mise en œuvre d'une convention, aussi bonne soit-elle. Quoi qu'il en soit, nous avons décidé de transformer Sosigaz, c'est un processus, ça ne sera plus une structure d'exploitation commune, ça sera une structure de régulation commune, l'exploitation étant laissée au secteur privé et à partir de la législation de chaque pays.
Donc à partir de la première quinzaine du mois d'avril, c'est confirmé, tout va démarrer?
À partir de la première quinzaine du mois d'avril, nous disposerons du corps législatif réglementaire qui va permettre aux opérateurs économiques de soumissionner leurs offres de part et d'autre.
Mais on parle plus de l'Union européenne, disons l'Union européenne en général qui est beaucoup plus citée.
Eh bien, l'Union européenne sponsorisera et mettra à la disposition des opérateurs les moyens financiers dont ils ont besoin, parce que l'Union européenne, tout comme les Nations unies et même les États-Unis d'Amérique, sont très intéressés à ce projet de par son aspect écologique et environnemental. Ils veulent participer à la sauvegarde de l'écosystème et de la biodiversité en aidant ceux qui viendront tirer des avantages économiques de l'exploitation, à extraire le gaz du fond du lac et donc à éloigner le danger d'explosion. Donc il y a vraiment une symbiose entre ces grandes institutions qui veulent participer à la sauvegarde de cette région au plan environnemental et des deux États qui veulent aussi en tirer des revenus en travaillant avec des opérateurs économiques.
Mais est-ce qu'on peut déjà avoir une idée sur la contribution de l'Union européenne, la communauté internationale? Elle contribue financièrement combien de dollars?
Vous savez, tout cela ne peut se négocier qu'entre les opérateurs économiques qui recherchent des crédits pour suppléer aux moyens dont ils disposent et l'Union européenne elle-même par ses structures bancaires. En ce qui concerne l'organe de régulation, nous sommes en train de budgétiser la contribution de l'Union européenne, des Nations unies et d'autres structures en faveur de ce groupe de travail des experts qui va commencer son travail dans un mois. Mais là, c'est un travail de régulation, donc je ne pense pas que ce soit une affaire de gros sous. Mmh. Avec 5-10 millions, je pense qu'ils peuvent finir leur travail.
Oui, mais dans bien des cas, vous savez, on dit qu'il n'y a rien sans rien. Hein. Certainement que vous avez eu à signer un pacte d'échange en vue de l'exploitation du lac Kivu.
Un pacte d'échange avec qui?
Avec la communauté internationale. Nous, on vous aide, on vous sponsorise et en retour, on attend quelque chose aussi.
Mais vous savez, c'est de l'argent, le gaz méthane. Donc forcément, ces entreprises qui vont venir et qui ont la technologie indispensable sont des entreprises européennes, pour la plupart, américaines. Il y a des Chinois que cela intéresse et des Japonais. Mais donc chacun en tire un bénéfice. Cela ne nous gêne pas pourvu que le bénéfice que les pays vont en tirer ne soit pas compromis.
Mmh. Alors, pour conclure, hein, Lambert Mende, nous savons que l'objectif du projet étant de produire de l'énergie électrique d'une capacité de 500 mégawatts, cela voudrait dire que si tout se passe bien, la RDC n'aura plus de problème de courant électrique.
Nous l'espérons, pourvu qu'au niveau de l'Ouest, ici, tout se passe bien pour le tout grand projet de Inga. Mais ça, c'est à mon collègue de l'énergie qu'il faut poser la question.
Merci beaucoup et à la prochaine.
Merci à vous.
Je ne peux pas.